Bonjour à tous et bienvenue dans La Ligue et vous sur Radio Plus. Bonjour Pauline.
Bonjour Nicolas.
Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juillet et on se retrouve pour la dernière émission de la saison.
À l'heure actuelle, vous êtes sûrement déjà en vacances et si vous ne l'êtes pas encore, il ne vous reste plus que quelques semaines à tenir avant de profiter d'un repos bien mérité. Ah, les vacances, le soleil, la plage, les cocotiers.
Ouais, enfin, on est dans le Pas-de-Calais, hein, pas aussi le Caïman. Ici, au mieux, on bronze dans le jardin et on va à la piscine et on commence à râler quand il fait plus de 20 degrés. Alors la mer et les cocotiers, ça nous concerne pas tellement.
C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de palmiers dans le coin. Par contre, la mer est bien là. À Merlimont, par exemple, il y a un centre de vacances à 15 minutes à pied de la plage. Alors oui, on peut rêver de vacances, même dans le Pas-de-Calais.
Bah tu sais quoi, ça me donne presque envie d'aller voir à quoi ça ressemble.
Bah ma valise est déjà prête, on y va ?
C'est parti, enfin après la musique.
J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup me jetait un regard un peu fou. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Costume un peu élimé aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Pour une fois les flics ont gagné. Vers chez toi je ne que passer sur la route de Memphis. 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 Sur la route de Memphis.
Nous sommes donc à Merlimont, au centre des Argousiers, un lieu de vacances mais aussi un lieu d'éducation et de formation. Le centre des Argousiers a en effet pour but d'éduquer à l'environnement par le biais d'activités et d'animations autour du sport et de la nature.
Situé au cœur de la côte d'Opale, entre Berck et le Touquet, à 15 minutes à pied de la plage, c'est le lieu idéal pour accueillir les classes de découverte et les enfants en séjour de vacances. Mais le centre des Argousiers ouvre ses portes à tous les types de séjours, que ce soit en camping ou dans des chambres en dur.
Que vous aimiez la farniente sur la plage ou les longues randonnées, il y en a pour tous les goûts. Parce que si la plage est tellement près du centre qu'on peut presque entendre les vagues depuis le camping, le centre est idéalement situé au sein d'un terrain de 4 hectares.
Pour nous en parler, on a rencontré certains des petits vacanciers qui séjournaient aux Argousiers.
Comment tu t'appelles ?
Lia.
Et t'as quel âge ?
10 ans.
Je m'appelle Manon, j'ai 8 ans et demi.
Comment tu t'appelles ?
Claire.
Et t'as quel âge ?
10 ans.
Comment tu t'appelles ?
Martin.
Et t'as quel âge ?
9 ans.
Qu'est-ce que t'en penses en général du centre ?
Bah c'est bien, en plus c'est nous qui faisons les tâches, on nettoie les tentes, on fait à manger, on met les tables, on fait les décos, enfin c'est cool. En plus il y a des copains que j'ai vus il y a longtemps, que j'ai pas vus il y a longtemps, j'adore.
Et alors, pourquoi tu t'es inscrit ici?
Parce que j'avais envie et tous mes copains y allaient.
Ah, parce que j'aime beaucoup voyager à Merlimont.
Qu'est-ce que t'en penses en général du centre?
Ben, ici c'est calme, t'es bien. Au soir, t'as pas de bruit. Puis ben, après, tu manges bien.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus ici?
Les vacances, la plage, faire des jeux.
La nuit.
Pourquoi?
Parce que j'aime bien les lits, comment ils sont. C'est pas des lits où est-ce que t'as le fer, ensuite le matelas et la couette. C'est en fait, t'as une sorte de tissu plastique qui s'accroche à des barres. Bah, on est bien dedans, il faut mettre des tapis.
Bah, on va souvent à la mer. Là, aujourd'hui, on avait pêché plein de choses. Là, on va re-aller à la mer, mais cette fois, se baigner.
Tu vas à la mer, tu vas faire pêche à pied. Après, tu vas faire des jours tout est permis. Comme hier, on a fait lundi, tout est permis.
C'est quoi les jeux que tu préfères faire ici?
La tech.
C'est quoi?
On doit courir à chaque plot, on doit lancer la balle et celui qui gobe, il a gagné.
Et tu étais forte à ça?
Ouais.
On s'est couché à 22h.
Tu dois être fatiguée ce matin.
Un peu. On a dormi que 6h, vu que je me suis endormie qu'à 2h, on a été dans la tente des garçons.
Non, c'est pas bien, qu'est-ce que vous avez fait?
Bah rien, on a parlé.
On dira rien, t'inquiète.
Ça donne envie. Et du côté des animateurs, comment ça se passe?
Ça se passe bien. En ce moment, ils sont partis faire de la pêche à pied sur le littoral pour faire découvrir la côte d'Opale aux enfants. Entre le kinball, le chokeball, le boomball, la découverte des dunes, la pêche à pied ou encore le disco golf, les animateurs étaient assez débordés et n'avaient pas le temps de répondre à mes questions. Et puis il y a aussi la soirée collective du jeudi à préparer. Ici, on ne s'ennuie vraiment pas, en tout cas.
Pourtant, j'aurais imaginé que c'est plutôt paisible, le métier d'animateur, non?
Paisible? Mais tu rigoles! Entre accueillir et motiver les enfants, prendre en charge le groupe, et ça en toute sécurité, tout en préparant et en animant les activités, c'est tout sauf tranquille.
Mais pour nous parler plus précisément du centre, on a rencontré Ludovic Idziak, directeur des Argousiers.
Alors, Ludovic Idziak, je suis responsable du pôle tourisme social, la fédération de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais.
Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le centre des Argousiers?
Le centre des Argousiers, c'est une colonie de vacances, telle que vos parents ont pu sûrement les connaître et que malheureusement de moins en moins d'enfants utilisent ou se rendent aujourd'hui. C'est une colonie de vacances, c'est donc un établissement où il y a une zone d'hébergement avec 160 lits, un restaurant où on peut manger tous ensemble, une grande terrasse d'environ 300 mètres carrés et des jardins, et étant donné qu'on est sur la côte d'Opale, un grand jardin qui est une dune aussi, tout ça sur un terrain d'environ 4 hectares et demi.
Et comment est né le projet du centre des Argousiers?
Ici, la colonie de vacances Les Argousiers, et alors c'est là où c'est rigolo, entre guillemets, c'est que c'est une colonie de vacances créée par l'abbé Alluin du diocèse d'Arras, qui est venu ici dans les années 30 créer une colonie de vacances pour les enfants déshérités du diocèse. Et puis au fur et à mesure, après-guerre, où effectivement la Ligue de l'enseignement a vraiment commencé à développer toute sa politique de droit aux vacances, et en lien avec la caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais, ce lieu était propriété de la CAF d'Arras, qui a développé beaucoup de séjours pour les enfants du Pas-de-Calais ici, et qui a chargé, il y a déjà 25 ans, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais d'organiser et de gérer le quotidien. Et donc la Ligue de l'enseignement Pas-de-Calais a acquis ses locaux il y a 10 ans et aujourd'hui nous en sommes propriétaires et nous continuons de le faire vivre.
Alors comment est-ce qu'on lie les vacances et l'éducation?
D'abord, la première chose qu'on va apprendre ici, c'est à vivre ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Là où au XXIe siècle, on sent tous les individualismes s'exacerber, j'ai envie de dire. Et puis on a une société qui encourage ça. Et ben ici, on vit moins pour soi et on vit ensemble. On apprend. Souvent dans cette forme de promiscuité, on peut le dire comme ça, à laquelle on n'est pas trop habitué, eh ben on va rencontrer la limite des autres, parce qu'il faut trouver le bon curseur, sa personnalité au sein du groupe. Donc en trouvant la limite de l'autre, eh ben généralement on trouve sa propre limite, et c'est sûrement la chose principale à apprendre ici.
Et donc en somme, qu'est-ce que le centre a de différent avec les autres centres de vacances ?
D'abord, c'est un centre de la Ligue de l'enseignement. Et donc c'est toutes les valeurs qui peut véhiculer de tolérance, mais la tolérance, la solidarité, tout ce qui fait aujourd'hui République et démocratie. Enfin, je pense ciment, ou en tout cas terreau de démocratie. Après, c'est parce qu'on est à la plage et je pense que la plage à la belle saison sur la côte d'Opale, je pense que c'est sûrement le décor préféré des habitants du Nord-Pas-de-Calais.
En dehors des séjours de vacances, quel autre type de service ils proposent ?
Alors, des classes de découverte, c'est beaucoup de on fait beaucoup d'accueil d'enfants scolarisés, j'ai envie de dire sur le Grand Nord, donc à partir de Paris jusqu'à Strasbourg. On accueille quelques Anglais, quelques personnes belges aussi, donc en classe de découverte, donc essentiellement tournée sur le développement marin, le milieu marin, parlons, et le développement durable. Ou les énergies renouvelables encore. Ensuite, comme ici l'été, généralement c'est beaucoup de séjours de vacances, donc c'est différents partenaires, c'est des communes qui organisent des séjours, c'est des partenaires comme la Caisse centrale d'action sociale, DFGDF, c'est les Francas, voilà. Et puis on a une activité aussi camping l'été, où là c'est essentiellement des enfants qui viennent accompagnés de leur animateur centre de loisirs et qui viennent camper. Ensuite, on peut aussi, durant l'année, accueillir des événements professionnels, des séminaires. On a déjà accueilli de grosses entreprises qui peuvent se rassembler dans nos locaux pour travailler, passer un bon moment, parce qu'on a un cadre quand même assez intéressant. Donc on peut travailler et s'amuser. Ça crée des liens entre collègues, c'est intéressant. C'est aussi la possibilité de faire des séjours en famille. Donc on a déjà accueilli des cousinades ou des mariages. Et puis enfin, c'est aussi accueillir une personne lambda. C'est-à-dire, vous comme moi, pouvons ici passer une nuit ou deux et puis séjourner à Merlimon à un tarif adapté.
J'ai une dernière question pour finir. À quoi fait référence le nom Les Argousiers ?
L'argousier, c'est un fruit. Alors c'est une plante qui est épineuse, qui produit un petit fruit orange. Alors c'est l'argouse. Alors c'est une plante qui s'installe dans des milieux assez difficiles, alors en particulier sur le littoral effectivement, et qui est capable de pousser dans les dunes ou sur le sable. Il est utilisé parce qu'on en fait de la confiture, on en fait des huiles. Il a des propriétés assez intéressantes au niveau culinaire. Il faut savoir que l'argouse est plus riche en vitamine C qu'un kiwi par exemple ou une orange. Alors on en voit peu et c'est souvent un peu cher parce que c'est hyper épineux, donc pour les modes de production sont compliqués et donc ça reste quelque chose de très artisanal et généralement il faut une bonne paire de gants pour pouvoir récolter l'argouse, mais ça reste un fruit que je conseille à chacun. Il y a quelques recettes intéressantes qui sont vraiment extrêmement bonnes.
Alors Nicolas, convaincu ?
Carrément, j'irais bien y passer mes vacances. C'est cher ?
Justement, pas tellement. Mais pour avoir plus d'infos, le mieux c'est que tu appelles directement le centre. Parce qu'en fonction des activités que tu souhaites faire, ton séjour est différent. Pareil pour les classes de découverte. Il existe plusieurs formules d'hébergement, du camping traditionnel ou séjour insolite en camp tipi. D'ailleurs, j'espère que tu aimes le camping, Nicolas. Parce que j'ai réservé pour le reste de la semaine.
Le camping, ouais, mais pas avec toi, pitié. C'est pas vrai, ça.
Bon, pendant qu'il râle, si vous souhaitez nous rejoindre au centre des Argousiers à Merlimont, contactez Madame Christine Ramon ou Madame Aurore Denoir au 03 21 24 48 60, 03 21 24 48 60, ou par mail à cramon@lix62.org ou à denoir@lix62.org.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Josie, you're my source of most frustration. Forget when I don't meet expectations. Everything you wish came true. And we all blamed you, even though as they all know you weren't the only one, two, three, four.
nice, but I kinda wonder why you'd leave it out for me. Why am I still hanging around when I know it brings me down? I'm hating everything. And you are getting right home in his car, you're making out in his front yard and hating everything. Please don't remind me, put your back behind me, try to fight it wisely, wish it this would end. And I am not fine, I'm glad I saw you on, like you're screaming, used to be mine, can we just pretend? And if we can have another day, I've got so much left to say, I'll tell you everything. And I laugh when I think about the past, when I see you after class, you're hating everything. Please don't remind me, put your back behind me, try to fight it wisely, wish it this would end.
Vous êtes toujours sur Radio Plus dans La Ligue et vous. Pour cette dernière émission de la saison, on parle de vacances et quoi de mieux pendant les vacances que de s'installer sur son transat et d'écouter le reste du monde continuer à vivre.
On vous propose alors de réécouter les émissions de La Ligue et vous, disponibles en podcast sur le site internet de Radio Plus. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici une petite rétrospective.
Toute l'année, nous avons mis à l'honneur la vie associative du Pas-de-Calais, en commençant par les coopératives jeunesse de service en septembre et les coopératives jeunes majeurs en octobre. Les CJS, destinés aux jeunes de 16 à 18 ans, et les CJM, pour les jeunes de 18 à 25 ans, permettent de découvrir le monde de l'entreprise pendant une période de 2 à 6 mois.
L'occasion pour nous d'inviter Frédéric Baric, chargé de mission ESS pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, ainsi que Benjamin Godino et Aurore Denoir, les deux animateurs de la CJM, pour nous expliquer en détail ses projets pour la jeunesse.
En novembre, nous avons parlé des Open Badges, littéralement badges ouverts en français, des badges virtuels qui valorisent les compétences informelles. Pour mieux comprendre ce dispositif qui peut sembler abstrait, nous avions rencontré Mathieu Muselet, Leslie Martin, Émilie Lenel, Isabelle Grand et les membres de la coopérative des savoirs de Saint-Paul-sur-Ternoise.
Et puis un mois plus tard, en décembre, nous vous présentions la 7e semaine départementale de la laïcité, organisée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. De la même manière, en mars et en avril, nous abordions la 8e semaine départementale de la fraternité. On réécoute tout de suite l'interview de Marie de l'association Trèfle, réalisée à l'occasion de la semaine de la fraternité, l'un des deux temps forts associatifs de l'année.
Tu représentes donc l'association Trèfle. Est-ce que tu peux nous parler de l'activité de ton association ?
Oui, alors donc l'association Trèfle, c'est une association qui travaille autour de la langue des signes française. Donc l'association est née en 99 du constat de plusieurs personnes sourdes qui trouvaient que il y avait peu d'accessibilité aux événements culturels de la région pour eux et qui avaient envie de se poser les questions. De fil en aiguille, il en est venu naturellement qu'il était important de former les personnes entendantes à la langue des signes pour qu'on puisse échanger et faire évoluer la situation des sourds, voilà, pour une meilleure accessibilité culturelle et une meilleure accessibilité en règle générale. Donc aujourd'hui, Trèfle, c'est un centre de formation à la langue des signes et une association qui crée beaucoup d'événements culturels qui permettent aux sourds et aux entendants de se rencontrer.
Mmh. Je voulais te demander que peut apporter la langue des signes à une personne qui voudrait l'apprendre ?
Des tas de choses. Alors, simplement la possibilité de faire des rencontres, parce qu'aujourd'hui, une personne sourde ne pourra pas forcément aller vers le français oral, et si on a envie de communiquer ensemble, c'est aux entendants de faire un premier pas. Alors, en dehors de ça, et je trouve qu'il faut préciser que c'est accessoirement, mais ça peut aussi être des opportunités de développer ses connaissances pour trouver un emploi. Donc, il y a pas mal d'emplois à trouver dans le service public, notamment pour le rendre accessible. Il y a une loi d'accessibilité depuis 2005 qui tarde vraiment à être appliquée, et il faudrait aujourd'hui pouvoir proposer beaucoup plus d'accueil en langue des signes dans les services publics, par exemple.
Bon, par exemple, apprendre la langue des signes, ce serait quelque part un acte pour lutter contre l'exclusion.
Tout à fait. Moi, je trouve que c'est un acte militant et aujourd'hui, on a vraiment besoin de faire connaître la langue des signes, de faire connaître la situation des sourds pour que la société puisse évoluer.
Mmh. C'est quelque chose qui n'est pas assez exposé dans les médias, dans la sphère publique.
Oui, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment et de là naît une véritable inégalité. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les sourds ne sont pas nos égaux. Mmh. Et par exemple, il y a des situations très complexes quand aujourd'hui un sourd doit faire appel à un interprète qui va financer lui-même pour pouvoir accéder à un service public. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire évoluer.
On va commencer par parler de ton événement. Est-ce que tu peux nous le présenter ?
Alors, donc, nous avons choisi, lors de la semaine de la fraternité, de faire un ciné-débat, donc une projection débat autour d'un film qui s'appelle Sourd et malentendu. Et donc, ce film, c'est un film de Sandrine Herman et Igor Okrunovits. Donc, Sandrine Herman est une jeune femme sourde qui est née dans une famille d'entendants et qui vous raconte un peu comment elle a évolué dans la vie, quel a été son parcours et les difficultés qu'elle a pu rencontrer, les difficultés qu'elle rencontre encore aujourd'hui au quotidien. Donc l'idée c'est de projeter le film et ensuite de pouvoir en discuter entre sourds et entendants. Un interprète sera présent, donc les échanges seront possibles dans les deux langues.
Mmh. Donc le film tourne bien autour de Sandrine Herman, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord. Pourquoi avoir choisi ce film en particulier ?
Alors, moi je trouve que c'est vraiment un film qui va poser le doigt sur les idées reçues qu'on peut avoir. J'aime beaucoup la première scène du film qui a un intervenant dans une classe de lycée qui demande aux lycéens quels sont les mots que leur évoque la surdité. Et puis petit à petit ils vont en arriver à malentendant et là il va leur poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on peut être défini par le fait d'être mal quelque chose ? Est-ce que moi je suis mal homme ? Est-ce que vous êtes mal femme ? Est-ce que je suis mal étudiant ? C'est quand même compliqué de définir quelqu'un le fait d'être mal quelque chose.
Je comprends. Donc c'est vraiment la dénomination qui pose problème dans ce cas-là.
Oui, il y a un problème de reconnaissance aussi sur la surdité. C'est que aujourd'hui, on a souvent tendance à penser que la surdité, c'est un handicap. Mais beaucoup de sourds reconnaissent la surdité comme une culture différente. Finalement, quand on pratique la langue des signes, il n'y a plus de handicap. Mmh. Voilà. Donc quand on communique dans la même langue, un sourd peut faire la même chose que nous. Il y a des sourds chercheurs, historiens.
Bien sûr.
Voilà. Mais il faut aujourd'hui que la société permette une meilleure adaptation aux sources. Et là, c'est toujours les sourds qui s'adaptent.
Et une reconnaissance donc comme une culture à part entière.
Voilà. Et notamment un grand sujet politique du moment qui est la reconnaissance de la langue des signes dans la Constitution française.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Terre d'Errance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que peut-être vous pourriez nous présenter cette association ?
Oui, donc c'est l'association Terre d'Errance de Noranfont, parce qu'il existe aussi Terre d'Errance de Steinvoorde. On est en connexion, mais on ne travaille pas tout à fait de la même manière. Donc, elle est née il y a une dizaine d'années, suite à la constatation que des gens dormaient dehors, dans les fossés, dans les villages, autour de l'Hilaire, pas loin de l'autoroute. Donc, en ce temps-là, c'était des gens venant de l'Est, de la Bosnie, des Kosovars, comme on disait. Et c'est des villageois, tout simplement, des alentours, qui se sont dit, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui soient dehors comme ça, sous la pluie, dans la boue. Donc, ils ont commencé à rapporter de la nourriture, des couvertures, de quoi s'abriter sommairement. Et malheureusement, rapidement, dans les mois qui ont suivi, il y a une... Alors, je ne vais pas dire bénévole, parce que l'association n'était pas constituée. Il y a une dame qui rechargeait les téléphones, qui a été mise en garde à vue pendant une paire d'heures, et une dame d'une soixantaine d'années. Donc, c'était impressionnant pour les gens qui étaient déjà un peu constitués en groupe, mais pas en asso. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on s'organise pour, entre guillemets, se défendre face à ces coups comme ça... de la justice ou de la police, comme on veut. Et donc, l'association a été créée. Et donc, l'association a vu ses activités diversifiées et enrichies au fur et à mesure des années, puisque il y a deux ans de ça encore, il y avait un camp à Noranfont, donc il y a un village entre l'Hilaire et Saint-Omer, ou entre Béthune et Saint-Omer. Et il y avait au départ une trentaine de personnes, 50, puis c'est monté jusqu'à 80, puis 200.
Le camp voit beaucoup de passages, vous disiez, donc la population évolue, change constamment.
Alors c'est vrai que j'avais parlé donc des gens de Bosnie, mais un an à deux ans après, la population a changé et effectivement ce sont des gens de passage. Donc parfois y rester un jour, deux jours, cinq jours, une semaine. Pendant 2 à 3 ans, pour vous donner une idée, ceux qui restaient 2 à 3 mois, on commençait à les voir se fatiguer, on s'inquiétait pour eux, on les prenait le week-end ou de temps en temps chez nous pour qu'ils se reposent, pour que voilà, pour qu'ils se ressourcent un petit peu. Et c'est vous dire, dans les 5 ans après, 7 ans après, quand le camp faisait 80 puis 200 personnes, malheureusement, il y a des gens qui sont restés bloqués 1 an. Et maintenant jusqu'à 3 ans.
Et la situation actuelle, il compte combien de personnes maintenant?
Alors, le camp a été, malheureusement, malgré nos 2 recours aux tribunaux, et bien que la juge ait adoué en appel et signifié que ce camp, bien que ne respecte pas du tout les normes sanitaires, hygiène et humaines, et donc n'était pas digne, malheureusement, d'être appelé un camp d'hébergement, c'était la seule solution, puisque l'État ne nous offre pas d'autres solutions et aides. Et donc, je suis en train de me reposer la question. Oui. C'était des gens de passage, donc des gens en situation entre guillemets illégale. Et donc, la préfecture, le préfet a décidé de détruire le camp. Voilà. Donc le camp a été détruit alors qu'il y avait 150, 200 personnes.
Et où vont maintenant les personnes?
Alors ils ont été dirigés de force, hein. Ils ont été mis dans des bus et ils ont été redispatchés, comme on dit, donc dirigés vers différents centres de tri. On peut même appeler ça, enfin bref. Et pour certains, ils sont revenus 2 à 3 jours après, ou même ceux qui ont été expulsés vers l'Italie, ils arrivent moins d'une semaine après. Donc là, il ne reste plus qu'une petite dizaine de personnes dans un petit camp, dans un tout petit village à côté. Ce petit camp n'a pas pour objectif, même si l'autre n'avait pas pour objectif de durer. C'est comme les Restos du Cœur, au départ c'était pour quelques mois et ça dure et ça dure. Donc la précarité continue, et malheureusement ce camp, bon, et quand même il y a des tentes où il y a un peu chauffé, enfin bref, on a encore la logistique entre guillemets, on a encore beaucoup de dons qui arrivent, donc on peut encore aider ces gens. Sauf que il a été décidé, comme c'est un terrain privé, il a été décidé, et il y a eu une négociation entre guillemets avec la préfecture, qu'il n'y aurait pas de nouveaux venus, de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes sur ce camp. Et donc, eh bien, les nouveaux arrivés, eh bien, restent autour du parking de l'autoroute, dans les bosquets, dans les fossés, et on a changé un petit peu notre logistique. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième branche, on pourrait dire. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui dorment dehors. Nous, on leur apporte à manger, on leur apporte des vêtements, des couvertures, ou qui sont tous les temps repris, gazés, mouillés par la police, hein, qui joue toujours ce petit jeu terrible et inhumain. Et oui, je vous disais, ils vont se reposer à Calais. Alors qu'à Calais, c'est le lieu le plus terrible, le plus horrible, où les gens sont complètement harcelés, où la police a ce terrible travail et des ordres inhumains de déloger les gens dès qu'ils voient qu'il y a un mini campement ou un mini début de quelque chose pour se protéger, quoi.
Ça sera cette vie et pas une autre. 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 Pas une autre, pas une autre, pas une autre. Pas une autre. On nous fait croire que la vie est un sprint, rien ne sert de courir, messieurs. Jamais trop tard pour faire bien, encore moins pour ouvrir les yeux. Les livres d'histoire contiennent peu de pages glamour, mais je crois qu'il reste de l'espoir partout où il y a de l'amour. Ça peut paraître naïf, tant le panorama est sinistre. Quoi qu'en disent les pessimistes, suffit de rien pour que la pessimiste. Dans le ventre de la bête, n'attends pas qu'elle te digère. Garde en tête que les plus grands changements naissent des plus petits gestes. On a tous notre influence. Les océans n'existeraient pas sans les ruisseaux, les fleuves et leurs affluents. Tu peux faire le bien avec un regard, le mal avec un silence. On érige des murs entre les gens, les médias en sont ciment, souvent trop de coïncidences égale pas de coïncidence. Je veux pas connaître ceux qui président, je veux savoir qui les finance. Mais je me laisserai pas briser par leur merdier. Je prends chaque matin comme le premier, chaque soir comme le dernier. C'est pas la vie qu'on veut, les débuts de mois à découvert. C'est pas la vie qu'on veut, tuer le temps et rester sans but. C'est pas la vie qu'on veut, donner un rond dans la
ce sera pas la vie qu'on veut. Devoir marcher sur les eaux, c'est pas la vie qu'on veut. Devoir obéir à des sorts, c'est pas la vie qu'on veut. On a peur de personne et pas le temps de trembler. Le monde nous appartient à nous de le changer. Ça sera cette vie et pas une autre. 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 Pas une autre, pas une autre, pas une autre. On n'a qu'une vie, je vais pas gâcher la mienne, ni attendre que l'heure passe. Ils voudraient nous laisser les miettes, on va servir dans leur plat. Savourer chaque bouchée jusqu'au dernier repas. Le futur de ce pays, c'est nous qui le digère ou pas. Les temps changent, on a grandi ensemble, personne va prendre la tangente. Et franchement, on s'en branle de ce que les gens pensent. On va réussir sans se vendre, car même à jeun, on en a dans le ventre. Se plaindre les bras croisés, dis-moi, y'a quoi de pire. Je connais des bougs en fauteuil qui ont la joie de vivre. Cœur de roi dans nos poitrines, on va amuser la galerie jusqu'à de la galerie. On s'appelle la famille sans lien de parenté. Maintenant on paie pour aller là où avant je pouvais pas rentrer. Ils nous détestent mais leurs gosses nous demandent des selfies. Ça sera cette vie malheureuse que juste celle-ci. C'est pas la vie qu'on veut. Les débuts de moi à découvert. C'est pas la vie qu'on veut. Tuer le temps et errer sans but. C'est pas la vie qu'on veut. Donner un rond dans la zone. C'est pas la vie qu'on veut. Devoir marcher sur les eaux. C'est pas la vie qu'on veut. Devoir obéir à des sorts. C'est pas la vie qu'on veut. On a peur de personne et pas le temps de trembler. Le monde nous appartient à nous de le changer. Ça sera cette vie et pas une autre. 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 Pas une autre, pas une autre, pas une autre.
C'était Dean Burbigo avec Pas une autre, et juste avant on avait écouté Laurence Matard de l'association Terre d'Errance. Nous l'avions invité au mois de mai dans les studios de Radio Plus pour notre émission consacrée aux associations qui viennent en aide aux réfugiés. Donc nous avons consacré cette émission sur ce sujet à l'occasion des élections européennes du mois de mai. Donc toute son interview est à retrouver sur le site de Radio Plus, ainsi que toutes les émissions dont nous avons présenté et dont celle du mois dernier où on a parlé de l'engagement jeunesse, du service civique, du BAFA, des Junior Asso et des dispositifs mis en place pour les départements pour les jeunes comme le permis citoyen. Donc tout ça c'est à retrouver sur le site de Radio Plus, www.radioplus.fr. Et puisqu'on est toujours en vacances, il est le temps de se cultiver. C'est l'heure maintenant du Flash Asso.
À tous les aventuriers d'Artois, des Flandres et d'ailleurs, du 3 au 10 août 2019 se tient le festival médiéval fantastique La Nuit Magique. Tir à l'arc, chasse au trésor, jeux médiévaux et de nombreuses activités en plein air sont au programme. Des spectacles et des banquets, des costumes et des mets singuliers pour vous transporter dans un autre lieu en un autre temps. La Nuit Magique, c'est du 3 au 10 août à l'étang de Bayel-les-Pernes et l'entrée est libre et gratuite. Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.aboutdefilm.com.
Et dans un autre registre, la compagnie nautique vous invite à l'Autopie du 26 au 31 août de 10h à 22h à la maison des associations de Béthune. L'occasion de faire de belles rencontres autour d'ateliers créatifs, de spectacles, d'expositions ou encore de parties de jeux vidéo. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un lieu culturel et citoyen éphémère à ne pas manquer. Pour plus d'informations, contactez Julie Pouille au 06 40 78 69 88.
Et ce week-end aura lieu le festival Les Éclectiques à Carvin. Ce 15e festival des arts dans la rue, organisé par l'association Oz Art, commence dès demain avec un spectacle surprise à 21h sur la place Matteotti et continue le samedi 13 et le dimanche 14. Cette année, la programmation est très variée et les lieux de représentation insolites, mais comme chaque année, le festival se termine avec une parade enflammée par le cirque du bout du monde à partir de 22h. Le programme complet est à retrouver à l'adresse www.festival-leséclectiques.fr.
Et puis le Louvre-Lens lance Parc en Fête du 6 juillet au 25 août, tout l'été donc. Allez visiter le parc du Louvre-Lens, vous y trouverez des dizaines d'activités en plein air. Culture, sport, jeux sont au rendez-vous tout l'été. Parmi les rencontres proposées, cinéma en plein air, atelier de fabrication de cosmétiques naturels, initiation sportive, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Le thème de la Grèce antique est à l'honneur cette année. Vous pourrez marcher dans les pas d'Achille en assistant à des reconstitutions de la vie de la Grèce antique, à des batailles entre hoplites ou encore en prenant part aux Jeux Olympiques du Louvre-Lens. Ne manquez pas Parc en Fête du 6 juillet au 25 août au Louvre-Lens. Toutes les infos sont sur leur site internet.
Et pour les amis du jardinage et des légumes, la fête de la tomate et des légumes anciens se tiendra le 8 septembre à la salle des fêtes de Haverskerk. Au programme, exposition, dégustation, conférence, vente de légumes, un moment d'échange et de culture pour tous ceux qui aiment prendre soin de leur jardin ou qui aiment simplement les bonnes choses.
C'était le Flash Asso de Radio Plus.
Radio Plus sur internet au www.radioplus.fr et par téléphone au 09 52 22 22 07. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Et on se retrouve pour la dernière partie de l'Alliguez-vous. Donc nous avons parlé de vacances, on a parlé de Merlimont au centre des Argousiers. Et puis on vous a aussi reparlé de nos derniers reportages, nos dernières émissions qui sont à réécouter sur le site de Radio Plus. Après le flash à son, on va parler de quelqu'un qui est encore au travail. On accueille Leslie Martin. Bonjour Leslie.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission pour la Ligue de l'enseignement et tu viens de terminer un projet sur lequel tu as travaillé toute l'année. Il s'agit d'un guide pour les mineurs non accompagnés, n'est-ce pas Nicolas ?
Oui, donc le projet sur lequel tu as travaillé est en réalité un guide de bonnes pratiques intitulé « Mineurs non accompagnés, protection et inclusion dans l'Union européenne ». C'est un guide qui regroupe les bonnes pratiques à adopter envers cette population. Et du coup, ma première question, c'est donc qui appelle-t-on les mineurs non accompagnés ?
Alors, les mineurs non accompagnés, ce sont des enfants. C'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que derrière les sigles qui sont nombreux, hein, MNA, MIE, voilà, la réalité c'est que ce sont des enfants qui ont migré, qui viennent d'un pays tiers à l'Union européenne pour venir dans l'Union européenne, et qui sont, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont, ce sont des mineurs, donc qui ont moins de 18 ans. Et qui sont isolés, donc ils ne sont pas accompagnés par un adulte, un représentant légal. Alors, ces MNA, ils sont arrivés dans l'Union européenne parce qu'ils ont fui dans leur pays d'origine, donc pays d'Afrique ou même d'Asie, soit des guerres, des persécutions, des problèmes économiques, ou qui sont aussi missionnés par leur famille d'origine pour aller chercher un avenir meilleur. Ou même pour retrouver un membre de leur famille dans un pays de l'Union européenne.
Et à combien est-ce qu'on les estime sur le territoire français ?
Alors c'est un chiffre qu'on a du mal à avoir puisque évidemment les enfants ne vont pas tous se présenter devant les institutions. Il y a eu un recensement qui a été fait en 2017 par la garde des Sceaux. Et ce chiffre a été estimé à 40 000 mineurs non accompagnés en France. Voilà. En réalité, on pense que c'est un peu plus parce qu'il s'agit uniquement des chiffres qui ont des enfants qui se sont présentés devant les institutions.
Donc ceux qui ont été recensés.
Exactement.
Et le guide regroupe différentes pratiques issues de plusieurs pays européens. Comment tu as procédé pour recueillir toutes ces informations ?
Alors, j'étais pas toute seule. Ça, on était 5 organisations sur le projet. Donc, une organisation en Espagne, une en Italie, une en Autriche et une en Suède. Et on a travaillé donc ensemble. C'est quand même un projet qui dure un an et demi. Il reste encore 6 mois pour disséminer un peu les résultats qu'on a obtenus. Donc en fait, chaque pays a identifié déjà les besoins. Alors les besoins, non pas des mineurs directement, mais des acteurs qui travaillent avec les MNA, puisque l'objectif du projet, c'était bien de former les acteurs qui sont au contact de ces enfants. Alors les acteurs, ça peut être les personnes qui travaillent dans la protection de l'enfance, ça peut être l'enseignant qui reçoit dans sa classe des mineurs non accompagnés, ça peut être les bénévoles des associations, vraiment tout secteur confondu. Donc on a identifié les besoins de ces acteurs et puis on s'est donné, on a réalisé des réunions ensemble à peu près entre tous les 4-6 mois. On se réunissait dans un pays pour mettre en commun les recherches qu'on avait obtenues. Et puis ensuite, on a identifié aussi les pratiques qui fonctionnaient. Sur la santé, l'éducation, la protection, quelles pratiques fonctionnaient dans nos pays. Et on les a tous recensées et écrites dans un guide donc qui est celui dont vous parlez.
Et comment sont nées du coup la connexion entre les associations de plusieurs pays différents? Comment vous êtes
Enfin, ça c'est grâce au donc dispositif Erasmus+. En fait, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, on est à l'initiative de ce projet. Et puis puisqu'on a consulté des rapports qui montraient ce manque de formation et ce besoin de formation des acteurs et surtout ce besoin de mise en lien des acteurs qui travaillent de manière isolée. Et une fois qu'on a monté ce projet-là, on a recherché des partenaires dans d'autres pays de l'Union européenne pour mettre en œuvre ce projet. Donc des partenaires qui sont évidemment pas choisis au hasard puisque ils sont spécialisés sur le sujet des enfants migrants, mais aussi ils ont l'habitude des projets européens. Et puis on a voulu choisir aussi des pays d'entrée pour les mineurs, donc comme l'Espagne et l'Italie, des pays de transit et aussi des pays de destination comme la Suède.
Mais les bonnes pratiques dont vous parlez dans ce guide, est-ce qu'elles sont spécifiques à un pays en particulier? Par exemple, l'une des bonnes pratiques recensées en France, c'est le regroupement familial. Cette pratique n'existe donc que en France?
Alors non, cette pratique, elle n'existe pas qu'en France, puisque est à l'origine de cette pratique le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, qui est une organisation des Nations Unies, donc une organisation internationale. Donc là, c'est une pratique qui est internationale. Mais nous, pour la France, on a rencontré les personnes qui travaillaient sur ce sujet en France. Et avec leur manière de faire, la culture française, etc. Et surtout, il y a ce qui est important, c'est qu'il y a nous dans le Pas-de-Calais, on est donc pas loin de l'Angleterre. Donc, ce travail de regroupement familial, il est important parce que beaucoup d'enfants qui arrivent à Calais, ils souhaitent en fait rejoindre un membre de leur famille en Angleterre.
À qui est destiné le guide au final?
Alors le guide, il est destiné à toutes les personnes intéressées par le sujet des mineurs non accompagnés. Donc que ce soit hein, voilà, de simples citoyens qui s'intéressent au sujet, puisque le guide est vraiment accessible à tous. Hein, c'est un langage assez assez simple et compréhensible. Mais après, c'est vrai qu'il est surtout destiné aux acteurs qui travaillent avec ces enfants. Il a vraiment vocation à inspirer, hein, parce qu'on parle de guide de bonne pratique, mais en vérité, il n'y a pas vraiment de bonne pratique sur ce sujet-là. Il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire.
C'est plutôt un conseil plutôt qu'une injonction.
Exactement. C'est quelque chose qui peut fonctionner dans un pays, ne fonctionnera pas dans l'autre. Et donc, le but, c'est pas de dire voilà comment il faut faire, mais plutôt regardez ce qui est fait et ce qui fonctionne à tel endroit, à tel moment. Et vous pouvez vous en inspirer pour vos propres pratiques à vous.
Eh ben, merci beaucoup pour tes réponses, Lassie.
Merci.
Et on aimerait également te remercier, Leslie, parce qu'en plus d'avoir été notre invitée pour cette émission, tu as été en plus notre tutrice toute cette année, de septembre à juillet. Tu nous as accompagnés du début à la fin de nos émissions, tu nous as encouragés et soutenus, et tu as su nous dire quand nos projets étaient trop farfelus, tu nous as toujours éclairés lorsque nous étions perdus. Et puis au-delà de cet accompagnement professionnel, on a passé de super moments avec toi. Et donc, Nico se joint à moi pour te dire un grand merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés durant toute cette saison. Vous retrouverez La Ligue et vous à la rentrée avec de nouveaux volontaires en service civique. Et d'ici là, on vous souhaite de bonnes vacances. C'était Nicolas Lecomte et Pauline Contessotto, radio reporter en service civique pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Et on termine avec une chanson des Fatal Picard, Retour à la Terre.
Et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédale. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédale. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste à fermer, elle est pas belle. La vie pour pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier oursin. De penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Mais nous fais tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lémurien. La main dans la main avec le dernier pangolin. La main
la que j'aime.
Radio Plus.
Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née.
Et je suis.
artisans, commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent également. Radio Plus, c'est 25 000 auditeurs dans l'Artois.